Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la musique. La dispute est préparée par Justine Dibling, Virginie Ledio et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Julien Douminc. Réalisation Daniel Finot. Ce soir, Anna Sigalevitch et Mario Drou se font face à notre affiche La Cenerentola de Rossini, dirigée par Ottavio D'Antone, mise en scène Guillaume Gallienne, c'est à l'Opéra de Paris. Le timbre d'argent de Camille Saint-Saëns, dirigé par François-Xavier Roth, mise en scène Guillaume Vincent à l'Opéra Comique. Et nous parlerons également du disque à la russe d'Alexandre Kantorov. Vers 21h20, Xavier Martinez nous entraînera dans le petit salon pour parler de ces personnalités invitées à faire des mises en scène d'opéra. Et puis il y aura encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour Wulu, film de Daouda Koulibaly qui est sorti hier sur les écrans. Nous ouvrons cette émission avec une nouvelle production de l'Opéra de Paris, La Cenerentola, drama giocoso en deux actes de Gioachino Rossini, livret Jacopo Ferretti, variation assez libre d'après le conte Cendrillon de Charles Perrault, un opéra créé en 1817 à Rome. C'est Guillaume Gallienne qui signe ici sa première mise en scène pour l'opéra et le chef Ottavio D'Antone qui fait ses débuts à l'Opéra de Paris.
Thank you.
Voilà pour ce petit extrait de cette production de la Cenerentola, actuellement à l'affiche du Palais Garnier à Paris. Marie Audroux, pour commencer, alors on commence par quoi ? Parce qu'on a entendu, parce qu'on entend, parce qu'on voit, comme vous voulez.
Peut-être parce qu'on a entendu, là, parce que je dirais qu'on peut déjà dire globalement que c'est un spectacle qui a beaucoup déçu. Mais la partie musicale, notamment, est très faible, il faut bien le dire. Donc là, nous avons écouté Madame Teresa Iervolino, qui est dans le rôle d'Angelina. Et on entend quand même, la voix est assez belle, assez opulente, mais on entend quand même un problème stylistique assez important, des ports de voix. Et puis après, là, il n'y a pas de vocalisme, mais quand ça commence à vocaliser... On sent quand même qu'on est un peu aux limites de la technique. Et puis jamais cette jubilation qu'on attend du chanteur roussinien, qui est quand même vraiment le sel. On peut mettre des notes à côté, mais encore faut-il avoir cette espèce d'élan, cette espèce de battement de cœur. Voilà, il faut une forme de folie pour chanter Rossini. Et là, on a tout sauf ça.
Mais ce n'est pas le plus grand problème, avez-vous dit, du plateau vocal.
Non, ce n'est pas le plus grand problème. Pour moi, le plus grand problème, c'était le Ramiro, le prince Ramiro, donc de Juan José de León, qui... franchement, là, était complètement, pour moi, à côté de la plaque. On a quelqu'un qui pète ses contrutes parce que, voilà, il s'est pété les contrutes, mais en dehors de péter les contrutes, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Et on a un problème déjà de timbre, hein, parce que... Alors, on est habitué au petit timbre acidulé à la Juan Diego Flores, mais quand c'est Flores, il y a de la musique. Ouais. Et là, on a quelque chose qui est presque les limites scolaires, quoi. On a l'impression d'avoir un étudiant de fin de cursus conservatoire. Et puis, je ne sais pas comment dire, mais on a vraiment toute cette distribution, on la sent vraiment pas au niveau de ce à quoi on est censé s'attendre sur les scènes de l'Opéra de Paris. Donc c'est quand même très très décevant.
Sur le plateau vocal, Anna Segalevich.
Je partage le point de vue de Mariotte sur Teresa Iervolino et sur Juan José de León. C'est vrai qu'on sent qu'ils sont à la peine. Voilà, il y a quelque chose de laborieux. Mais bon, après, je pense que les éléments ne cèdent pas les uns les autres. On y reviendra après, mais la conjoncture ne fonctionne pas et personne ne cède. Ceci étant dit, ce sont des rôles d'une très, 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 très grande difficulté qui nécessitent une virtuosité extrême. Voilà, que clairement, peu de gens peuvent chanter, je crois. C'est vrai que j'aurais écouté Bartoli hier,
oui.
Erreur.
Et Jos Di Donato qui a chanté sur Flores justement qui ont chanté et Cenerentola sur ce plateau. On peut pas juxtaposer dans le souvenir de l'auditeur une telle disparité de qualité vocale.
Voilà, c'est en effet assez difficile. Après, il y a quand même un excellent Ali Doro.
Voilà.
Bon, alors il n'est pas beaucoup là, certes, mais son air de l'acteur est absolument magnifique. C'est Roberto Tagliavini, qui, quand il est là, a un charisme, qui lui, pour le coup, en plus, ornemente avec beaucoup d'intelligence, d'idées, il fait jamais la même chose. Enfin, il y a vraiment une vraie subtilité, je trouve, une aisance, un charisme et une autorité naturelle en scène où on se dit, vraiment, dès qu'il entre en scène, on est très heureux. Moi, je suis pas contre les deux sœurs, que je trouve voilà, là aussi c'est assez difficile ce qu'elles ont à faire. Elles sont beaucoup ensemble, etc. Clorinda, c'est Chiara Schera qui est pas mal. Et moi j'ai surtout aimé la Tisbé de Isabelle Druet, qui je trouve a un très joli timbre, qui a quelque chose d'un peu délicat, de cuivré. Enfin, je trouve qu'elles sont toutes les deux de belles présences en scène. Et d'ailleurs, par ailleurs, c'est un peu pour moi la réussite du spectacle dans la mise en scène. Je trouve qu'il y a de l'idée avec ces deux sœurs là.
Mais ces chanteuses, ces chanteurs sont-ils aidés par le chef qui faisait lui aussi ses débuts à l'Opéra de Paris, Ottavio D'Antoni?
Eh ben oui et non, c'est-à-dire que non mais parce que c'est pas mal dirigé du tout, c'est bien fait, c'est bien équilibré, il y a du goût, il y a du soin, c'est fouillé, c'est travaillé, il y a un bel équilibre entre les pupitres. Enfin, c'est une direction qui se tient totalement, mais pas dans cette mise en scène parce que les tempi sont quand même assez tirés, assez lents, et comme la mise en scène est elle-même assez plombé, que les décors sont un peu plombants, du coup personne ne cède et il y a une sorte de lourdeur où on sent une locomotive qui devient de plus en plus en peine et qui n'arrive pas à démarrer. Et la façon dont c'est dirigé, c'est pas que c'est pas bien en soi, c'est assez beau, mais je pense que c'est très 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 difficile de chanter sur cet MP, ou alors trop facile. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne qui n'aident pas totalement, même si les couleurs de l'orchestre sont belles.
Mmh. Moi, j'ai un peu envie de dire que c'est un orchestre qui se fait plaisir.
Si vous avez envie, dites-le.
Oui, c'est un orchestre qui se fait plaisir, qui joue pour lui-même d'une certaine façon. Et je ne crois pas que l'intention de Danton, et pourtant, par ailleurs, c'est vraiment quelqu'un de très talentueux, il n'est pas dans le lien avec ses chanteurs. À aucun moment, il ne les soutient pas. Et c'est vrai qu'on entend de très jolies couleurs. On entend l'ouverture, par exemple, c'est absolument magnifique. Ouais. Magnifique. Mais quand même, il y a beaucoup de décalage. Alors, je sais bien que c'était un sort de première, mais on sait qu'il y a toujours des choses à, disons, qui vont se roder et qui vont devenir meilleures au fur et à mesure des représentations. Mais là, quand même, il y avait pas mal de décalage. Et on sentait surtout qu'il n'y avait pas ce regard, cette relation, cette tension entre la fosse et la scène. Et encore une fois, je reviens à mon concept qui est pas un concept, mais qu'il faut de la jubilation dans cette musique.
Ah bah oui.
Et si on n'a pas ça, même dans les airs tristes, parce qu'il y a un certain nombre d'airs tristes dans Cenerentola, c'est pas le Barbier, on est d'accord, c'est pas du Giocoso en permanence, mais même derrière le passage des tristesses ou les choses un petit peu plus compassionnelles, l'énergie, elle doit être toujours là. Et il y a plein de moments où ça tombe, plein de moments. Donc il faut constamment, c'est comme s'il fallait constamment remettre la machine en route. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas, un déroulé dans le temps, on n'a pas quelque chose qui se tient sur le plan de la structuration dramaturgique. Et donc, ben, il y a bien des moments où on s'ennuie quand même, il faut le dire.
Alors, mais même dans les nuances, c'est plutôt du mezzo piano, mezzo forte qui joue. Il y a pas de moment d'éclat où ça...
Ben, les fameux crescendo récignans qu'il faut vraiment faire, il faut éclabousser les murs. Et là, on n'a pas ça. Et à Garnier, on peut le faire. Parce qu'on a quand même la boîte pour ça, exactement.
Je ne l'ai pas précisé, j'aurais dû le faire dès le départ. Cette chaîne Cenerentola, elle va être diffusée dans le réseau des cinémas UGC, dans les cinémas indépendants. Ce sera mardi soir prochain, le 20 juin, 19h30. Ce sera sur Culture Box, ce sera sur France 3 plus tard. Donc, ce que nous disons là peut concerner des spectateurs, peut-être pas physiquement présents à Garnier, mais qui pourront quand même avoir un aperçu très, très précis. L'expérience de l'opéra au cinéma, on en parle régulièrement. C'est certes un pis-aller, mais c'est quand même une belle façon d'être en prise avec ces productions. C'est pas l'expérience de la salle, mais voilà. Ce que nous disons là peut concerner potentiellement énormément de personnes, hein, pas seulement ceux qui ont la chance de pouvoir aller au Palais Garnier pour ces représentations. Alors, vous avez déjà commencé très légèrement à évoquer la mise en scène, l'une et l'autre. Venons-y. Guillaume Gallienne, appelé pour cette nouvelle production. Quel parti pris de mise en scène, Anna Segalevitch?
Alors, parti pris, pas totalement de parti pris, peut-être. pas en tout cas, à mon sens, pas assez de parti pris. C'est-à-dire, ni de réelle féerie, ni de réelle cruauté. Alors, on sent qu'il tend quand même à ça. Il place, donc le décor d'Éric Ruff nous place dans... on voit une façade de palais qu'on imagine napolitain, dans les rouges, un peu décati, enfin complètement décati d'ailleurs, avec des petits escaliers, des fenêtres, etc. On a au sol
une coulée de lave,
voilà. Donc c'est assez sombre, donc coulée de lave pour Naples, peut-être coulée de lave aussi pour Cenerentola, puisque
c'est les cendres,
cendres, voilà.
Hein, ça va chercher très loin, quand même.
Bon, pourquoi pas?
Pourquoi pas.
On a ça. Puis après, la façade se lève et découvre
une esplanade.
Une sorte d'esplanade avec un échafaudage à court qu'on a du mal à identifier parce qu'il n'y a pas vraiment de perspective. Donc, on voit une sorte d'échafaudage, qui ne joue pas vraiment beaucoup.
Pas vraiment.
Un petit peu pour Alidoro, mais quand même assez... On voit des petits pieds qui pendent, mais on ne comprend pas très bien ce que ça raconte. Et le parti pris, moi, je pense qu'il a cherché une forme de simplicité, de vérité des personnages, de rapport entre les êtres. Voilà, il y a quelques idées qui me semblent assez intéressantes. Les deux sœurs, qui sont bien croquées avec ce père, ce don magnifico qui est une sorte de type assez vulgaire,
très vulgaire,
en Marcel, dont on soupçonne des rapports assez ambigus, voire incestueux avec les deux filles. Qui sont du coup elles-mêmes les victimes de ce père. Moi, je trouve que c'est intéressant, ça, la façon dont c'est traité les deux sœurs. C'est pas de pure peste, quoi. C'est pas les petites atroces qu'on peut voir dans Cendrillon. Non, elles ont quelque chose de douloureux. Il se passe quelque chose en elles et elles sont pas si cruelles que ça. D'ailleurs, avec Cendrillon, c'est surtout des pauvres filles, quoi, qui sont elles-mêmes
maltraitées. Ça, c'est Rossini, hein. C'est aussi Rossini, ça.
Oui, mais ça se voit dans la mise en scène. Avec la figure comme ça de cette peau d'âne qui se promène sur le plateau. Bon, évidemment, qui fait penser à l'inceste. d'inceste porté par les deux enfants qui revient régulièrement.
Oui, ça, oui, c'est ça, assez réussi. C'est l'idée.
Voilà. Il y a aussi la façon dont on perçoit la féminité, ces femmes qui ont besoin de se marier. Quand le prince arrive, hein, donc c'est Dandini,
le faux prince
qui vient pour chercher une femme. On voit toutes les jeunes femmes du village de 17 à 77 ans qui sont dimanche, qui se mettent leur robe de mariée et qui attendent comme ça sur la place d'être peut-être choisies, élues. Il y a à la fois quelque chose de drôle et de triste et de cruel là-dedans. Ça, je trouve que c'est bien. Mais voilà, à part ces idées-là,
moi je trouve qu'il n'en tire aucun parti de ces idées. C'est ça le problème, c'est que ça nous est jeté en pâture quelque part et il n'en fait rien. C'est-à-dire que ces femmes en robe de mariée atroces, etc., qu'ils ont tous plus difformes d'ailleurs les unes que les autres. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont pas mal, mais les autres, il y en a vraiment, c'est caricature de la gent féminine, limite misogyne hein, quand même. Et là, elles sont plantées du début. Enfin bon, elles bougent évidemment en fonction des scènes, mais elles n'évoluent pas. Elles seront toujours comme ça en paquet, en robe blanche, à attendre finalement le bon vouloir du prince, qui ne viendra pas d'ailleurs, puisqu'il a choisi la plus moche, la plus mal habillée d'entre elles, qui est Cendrillon. Parce que ça aussi, la façon dont Cendrillon est attifée, alors... Au départ, quand elle est dans les cendres, bon, mais à la fin, la robe verte, c'est juste une horreur totale, quoi. On peut même pas. Oui, c'est.
Oh oui, non, elle est pas aidée vraiment.
Non, vraiment, c'est.
Parce qu'elle,
la cruauté, oui, le costumier, c'est quelqu'un. Oui, la cruauté des costumes, effectivement, elle y est. Non, moi, je trouve qu'il y a effectivement quelques idées, mais qui ne sont pas développées, et j'ai l'impression que c'est plutôt une juxtaposition de scènes, avec ce côté, par exemple, très vulgaire de Don Magnifico personnellement, moi, j'ai trouvé trop exagéré parce qu'il n'y a pas besoin de montrer un type en slip hein, avec une grosse bedaine et mal attifé, sortant avec une pute de son lit pour montrer que c'est un atroce personnage. Vous voyez, il y a des outrances et puis en même temps, on n'en tire jamais rien. Quoi. Ça joue pas.
Il y a des outrances sans grotesque, en fait. Ça manque de théâtre.
Exactement. C'est ce que j'allais dire. Ça manque vraiment de théâtre. Et le rapport entre les personnages, pareil, ça joue pas vraiment. Donc... C'est quand même très très décevant cette mise en scène. C'est très décevant et bon, peut-être sera l'objet tout à l'heure de la chronique de notre camarade, mais aller chercher Guillaume Gallienne pour faire une mise en scène d'opéra, on se pose la question de savoir si c'est une bonne idée ou pas, parce qu'on sait bien qu'il faut renouveler, il faut amener des nouveaux noms, etc. En l'occurrence, bon, est-ce qu'il faut aller chercher des gens qui par ailleurs ont des carrières sur d'autres plans ou qui sont des personnages publics pour faire de la mise en scène d'opéra? Ça, c'est un autre débat.
Et on va bientôt l'avoir, en effet. On arrête là pour la Cenerentola de Rossini, dirigée par Ottavio D'Antoni et mise en scène Guillaume Gallienne, donc jusqu'au 13 juillet à l'Opéra de Paris. Cette Cenerentola qui sera retransmise en direct dans les cinémas UGC et dans des cinémas indépendants le 20 juin, c'est-à-dire donc c'est mardi prochain à 19h30. Ce sera aussi sur Culture Box et puis il y aura une diffusion ultérieure, comme on dit dans ces cas-là, sur France 3.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
À suivre dans la dispute, Camille Saint-Saëns et Alexandre Kantorov. Mais tout d'abord, Xavier Martinet dans le petit salon. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Bon, Mario a fait le lancement du sujet, donc je vous laisse dérouler maintenant.
Voilà, bon, j'ai presque plus rien à dire, sinon que l'opéra sans la technique, c'est épouvantable. En fait, ce sont les propos de Guillaume Gallienne il y a une semaine sur France Inter. Inutile d'en rajouter, effectivement, j'avais prévu une petite introduction. J'en retiens simplement de votre discussion que la mise en scène de Guillaume Gallienne, en quelque sorte, rate ses effets, ce qui est intéressant, puisque des mises en scène de ce genre, on va en avoir d'autres. C'est Julie Gayet, l'actrice qui mettra en scène demain soir les Noces de Figaro en plein air, cette fois on va en reparler. Et pour l'Opéra de Paris, c'est vrai que c'est devenu un peu une habitude, inaugurée je crois en 2002 par Colin Serrault avec le Barbier de Séville, que d'inviter effectivement des personnes qui ne sont pas habituées à la mise en scène d'opéra à mettre en scène des opéras. Justement, on confie des mises en scène à des personnes sans expérience, en tout cas de la scène lyrique, et c'est un phénomène qui prend de l'ampleur depuis quelques années avec autant de succès public que de déception critique, il faut croire. Donc, l'Opéra de Paris, d'abord, y a recouru en 2014 avec l'actrice et réalisatrice Zabou Breitman pour l'enlèvement au sérail de Mozart, un opéra qui reste sur l'estomac, c'est ce que vous aviez écrit, Marie-Aude, mais vous n'êtes pas la seule, puisqu'il ne tient pas ses promesses, disait Le Point. C'est un retour sans fanfare, écrivait Christian Merlin, lui, dans le Figaro. Le plus indulgent est peut-être l'Express, qui botte en touche, en quelque sorte, avec une interview, qui a l'intérêt de nous apprendre que Zabou Breitman assume un parti pris esthétique orientaliste, la Turquie des années 20, pour cet enlèvement au sérail, car elle ne voulait pas, je la cite, un truc en costard, et souhaitait, pour son premier opéra, tout simplement rentrer dans l'histoire, dit-elle, mais aussi, et c'était l'enjeu d'une soubrette blonde, elle voulait pour cette mise en scène quelque chose de sexy avec du vrai mélo. Voilà, le pari est réussi. Zabou Breitman, elle n'est pas une novice, hein, pas plus que Guillaume Gallienne dans la mise en scène. Elle a mis en scène au moins 10 pièces de théâtre, mais là, il s'agit, avec cet enlèvement au sérail, apparemment d'une fantaisie légère, un divertissement. Ce sont les commentaires qui reviennent le plus pour cette œuvre du répertoire, et déjà bien marquée aussi, puisqu'elle avait été montée la dernière fois par George Trailer à l'Opéra Bastille, lui-même issu du théâtre, comme quoi il n'y a pas de fatalité. Mais se pose donc en tout cas la question de la légitimité de ces opérations dont certains se sont fait, il est vrai, une spécialité en France. C'est le cas d'Opéra en plein air, une association, voire une entreprise qui renouvelle chaque année l'invitation d'une star, donc Julie Gayet, demain, qui met en scène Les Noces de Figaro. Et c'est vrai que la suite de la programmation des dernières années est un programme aux allures de guest list. C'était Jacques Attali pour La Bohème l'année dernière, Ariette Lombal, Patrick Poivre d'Arvor en 2014, Elie Chouraki, et évidemment pour cet opéra là de Julie Gayet, pas encore de critique, sinon un bon mot du Figaro au début de l'année. Enfin, un mariage pour Julie Gayet, elle prépare Les Noces de Figaro. Mais attention quand même, prévient Madame Figaro, son rapport à l'opéra est, je cite, intime, il n'est pas dû au hasard, puisque l'actrice et productrice s'est en effet essayée plus jeune à la musique classique et a chanté l'air de Barberine. Voilà, toutes les tentatives ne sont quand même pas dénigrées, hein. La Traviata, montée par Ariel Dombal en 2015, était une représentation magistrale pour le Courrier de l'Heure. Elle a même ému la ville d'Arouet en Meurthe-et-Moselle, disait l'Est républicain. French Cancan et Go Go Boys au torse nu ont recréé l'atmosphère des fêtes romantiques dans la vision d'Ariel Dombal, même si elle se défend du romantisme dans une interview. Ou encore cette Cenerentola joyeuse, remarquée par tous à l'Opéra de Lille l'année dernière, par Jean Bellorini, lui issu du théâtre également. En tout cas, en 10 ans, expliquait La Croix en 2010, Opéra en plein air a su faire une machine rentable avec des opéras connus, dans des cadres de prestige, une affiche médiatique et des chœurs, je crois, bénévoles, le tout en revendiquant l'anti-élitisme pour des tarifs finalement au plus fort assez semblables à l'Opéra de Paris, 210 euros. Là aussi, c'est une formule qui marche, écrit La Croix. D'ailleurs, Patrick Poivre d'Arvor, à la mise en scène jugée brouillonne en 2010, a quand même été de nouveau choisi plus tard pour Don Giovanni, donc en 2014. L'Opéra de Paris aussi a ses valeurs sûres. Colin Serrault avec Le Barbier de Séville, donc 2002, puis Manon 10 ans plus tard. Et j'ajoute, pour terminer, je pourrais en reparler, que la France n'est pas seule. Il y a aussi une tendance anglo-américaine à choisir des réalisateurs de cinéma pour mettre en scène les opéras. Sofia Coppola, Terry Gilliam, avec une réception diverse. Alors, démocratisation, marketing ou véritable plus-value scénique, que pensez-vous globalement de ces opérations ?
Et puis on peut rajouter Woody Allen aussi, on avait parlé ici du DVD de sa production pour l'Opéra de Los Angeles. J'ai oublié ce que c'était d'ailleurs, c'est pas bon signe, mais c'était plutôt assez drôle et enlevé. Et puis on n'avait pas cité un bon exemple, qui est celui de Michael Haneke, qui a signé à Paris Don Giovanni et à Madrid et Bruxelles Così fan tutte, qui là pour le coup, c'était des très grandes réussites. Donc, alors, est-ce que c'est l'exception qui confirme la règle ? C'est une autre histoire. J'ai pas vu la production de Sofia Coppola. Si d'ailleurs, si je ne l'ai vu à la télévision, ça avait l'air assez catastrophique, ouais, hein, me semble-t-il. Mais ouais, bon, nécessité d'aller chercher ailleurs, pourquoi pas, hein. C'est pas.
Oui,
il
non, mais
pas
le principe est pas acclamé. Après, c'est un coup de poker. Et puis, malheureusement, quand même, on a une petite expérience maintenant qui nous fait dire que 9 fois sur 10, ça rate son coup, quand même, de façon générale. Parce que l'opéra, c'est quand même quelque chose de particulier. Il y a toujours cet écueil, hein, de la musique, et on fait pas ce qu'on veut avec un temps qui est musical d'abord. Et
c'est ce que disait Chéreau. Exactement. Le problème de l'opéra, c'est
la musique. Et voilà. Donc, ils illustrent. Pour revenir à comment s'appelle-t-il déjà, opéra en plein air. Je crois que j'ai dû assister à un demi Don Giovanni une fois parce que je suis partie à l'entracte parce que j'ai trouvé ça, mais mais tellement irrespectueux du public que c'en était. Alors oui, on prend des têtes d'affiche qui, à mon avis, sont quand même certainement payées assez grassement. Et puis à côté de ça, on a pas un chanteur dont on a entendu parler quelque part. On a des chœurs, c'est-à-dire toute la partie
amateur.
Musicale, toute la partie musicale est complètement en dessous du niveau de la mer. C'est-à-dire qu'on cherche même pas à donner l'œuvre musicale. On bâtit ça sur le nom, bon, Julie Gayet, PPDA, tout ce que vous voulez, et on fait croire aux gens que c'est ça l'opéra. Donc là, oui.
Mais c'est parce qu'ils travaillent dans des conditions épouvantables, qui n'ont pas de bons chanteurs. On les fait jouer en plein air, dans des conditions pas possibles. Ils ont je sais pas combien de représentations. Enfin, donc ils ne peuvent pas techniquement trouver des chanteurs des chanteurs dignes de ce nom qui acceptent ces conditions. Par ailleurs, l'orchestre, c'est hallucinant
ce
qui se passe dans la fosse. C'est sonorisé, mais d'une façon mais délirante, quoi. C'est vraiment. Moi, j'en ai vu deux. J'ai vu le Carmen de Patrick Poivre d'Arvor et la Traviata d'Ariel Dombal. Honnêtement, c'est même pas un problème de metteur en scène. Hein. C'est un problème de tout. Enfin là, c'est pareil, c'est la conjoncture. Ça n'est pas possible de faire quelque chose de correct quand l'orchestre fait n'importe quoi en étant sonorisé, que tout le monde se. Ça n'a aucun sens, quoi.
Ça, c'est un cas à part, on va dire, mais très particulier. Mais quand j'entends que
il y a quand même du monde, il y a.
Mais oui. Pour les plus chers.
C'est hyper énervant parce que les gens pensent que c'est ça l'opéra.
C'est la démocratisation.
Voilà. En plus, c'est pas une démocratisation financière. Ça coûte moins cher d'aller.
C'est une démocratisation de l'opéra.
Voilà. Et donc, ils vont aux Invalides. Alors, le cadre est beau, etc. En plus, c'est extrêmement mondain. Enfin, c'est un peu dégoûtant, franchement, tout ça. C'est un peu. Moi, je trouve ça un peu difficile comme
concept. En tout cas, ce qui est bien, c'est que en tout cas, pour venir à l'Opéra de Paris et à d'autres opéras d'ailleurs, quand on a une tête d'affiche, c'est sûr, on va avoir 50 000 avant-papiers. Donc, au moins, le public est informé d'une production. Après, effectivement, il y a souvent un avant et un après. Il y a tous les reportages, toutes les interviews, tous les portraits. Et puis ensuite, il y a les critiques qui parlent. Et je crains que sur cette Cenerentola, on soit à peu près quand même globalement tous d'accord, même si effectivement, il y aura toujours des voix discordantes. Mais je trouve que c'est pas une bonne idée. Au fond, c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il y a quand même suffisamment de metteurs en scène. S'il faut aller chercher des gens nouveaux, la prise de risque, elle devrait plutôt aller à nous sortir des talents justement qu'on ignore et pas aller chercher des gens que tout le monde connaît en essayant de voir s'ils sont compatibles avec l'opéra.
Mais il y a une question quand même d'accompagnement aussi, parce que se faire venir quelqu'un et se tenter un pari, il faut aussi que suivre le travail, peut-être. C'est une question aussi. Alors, je sais que pour Opéra en plein air, il y avait des grands noms qui signaient, mais il y avait quand même des petites mains qui assistaient.
Oui, c'était Manon Savary, par exemple.
Et plus que ça, vous le dites. Donc voilà. Comment on les aide aussi, ces gens, à venir? Alors, vers les grandes maisons aussi, c'est qui nous intéresse peut-être davantage ce soir, Xavier Martinet.
Oui, il me semble qu'il y a de toute façon une question de programmation et de choix des directions aussi de ces opéras. Évidemment, puisque comme vous le dites, ce qu'on remarque assez systématiquement, c'est que bien sûr l'affiche est belle, mais que les plateaux, et notamment les plateaux musicaux, sont faits un peu au rabais. Quand je parle de chœur amateur, c'est un peu ce dont on a l'impression. De la même façon, je lisais quelques papiers sur Guillaume Gallienne, effectivement. Effectivement, c'est pas forcément les meilleurs chanteurs qu'on a pris, peut-être, et pour cause.
Non, je crois pas, non.
Non,
faut pas c'est mélanger, ça n'a rien à voir. Les chœurs d'opéra en plein air et les chanteurs, qui sont pas totalement là, il se trouve que la distribution est ratée, mais de l'Opéra de Paris, c'est pas du tout comparable.
C'est pas un choix de mettre.
Non, c'était un mauvais concours de circonstances, dirais, là, en l'occurrence.
Disons-le comme ça. Simplement pour.
Elle le disait, elle le pense comme ça. Elle vous nous informe, Xavier.
Pour continuer, j'avais précisé qu'il y a effectivement le même choix qui est fait depuis pas mal de temps, à peu près 10 ans ou 15 ans, par des institutions étrangères. Donc il y avait l'Opéra de Los Angeles, il me semble, pour Woody Allen, qui a repris Woody Allen d'ailleurs un peu plus tard, et qui a des choix qui, pour le coup, semblent tout à fait pertinents et des choix véritablement ciblés. Là, c'est le cas pour Wim Wenders, par exemple, qui doit présenter un opéra à l'Opéra de Berlin l'année prochaine. Donc, bientôt. À la fin du mois de juin, ce sera Les Pêcheurs de Perles. C'est pas forcément l'opéra, on pourrait dire, le plus connu.
Là où on attendait Wim Wenders, surtout.
Non, mais je crois que c'est lui qui a choisi.
Oui, mais c'est ça qui était intéressant.
De mettre en scène cette œuvre.
Donc, pour le coup, on peut faire confiance à un véritable parti pris esthétique, en tout cas là-dessus, une véritable intention de la part de Wim Wenders, qu'il n'y a pas forcément quand on est un grand nom invité pour une représentation, même si on a des affinités avec l'opéra.
Bon, à suivre. Vous allez voir Wim Wenders à Berlin. Non, c'est pas dans votre calendrier est bien rempli.
C'est pas dans mes priorités, mais pourquoi pas. Bon. Ce serait certainement intéressant.
Il y aura un autre débat à voir sur effectivement les metteurs en scène de théâtre qui vont vers l'opéra et qui sont demandés aussi par les opéras. C'est que pour l'instant, Thomas Ostermeier est à peu près le seul à avoir résisté, mais ça va peut-être pas durer. Suspense.
Eh ben oui, parce qu'il gagne plus d'argent aussi à l'opéra, il faut bien le dire.
Il
gagne beaucoup plus d'argent.
C'est ça, oui.
Bon. Ah ben oui.
Mais enfin, ceux à qui on demande généralement ne sont pas ceux qui manquent de travail au théâtre.
Oui, c'est
donc
vrai.
C'est peut-être pas suffisant pour les.
Enfin, une maison de campagne à chaque production, c'est pas mal non plus.
C'est à ce point-là. Vous avez les chiffres.
Ah non, j'ai pas les chiffres, mais j'ai les.
Ça dépend dans quelle campagne.
Voilà, ça dépend dans quelle campagne.
C'est en Basse-Saxe ou bon, en Rhénanie. Bon, on verra ça une autre fois. Vous nous donnerez des chiffres, j'espère, Marie-Andrew. Bon, laissons les représentations se passer. Et le deuxième opéra à notre affiche ce soir, Le Timbre d'argent de Camille Saint-Saëns, il concerne justement un metteur en scène repéré dans le théâtre qui commence à signer des mises en scène d'opéra. Il l'avait précédemment fait à Dijon. Je parle de Guillaume Vincent, dont nous avons parlé dans la dispute théâtre du lundi soir pour le formidable Songe et Métamorphose qu'il a présenté voici quelques semaines aux ateliers Berthier au théâtre de l'Odéon, après une tournée conséquente. Donc, Le Timbre d'argent, Camille Saint-Saëns, drame lyrique en quatre actes, livré Jules Barbier, Michel Carré, créé en 1877 au Théâtre National Lyrique à Paris. Alors, il faut dire quand même que, ou rappeler que Saint-Saëns a eu le malheur de vivre à cheval sur deux époques de la musique. Alors, chance d'une vie très longue, il est mort à 86 ans en 1921, mais début difficile, très grande gloire, très grande reconnaissance, et puis après il est largement passé de mode. Samson et Dalila, bien sûr, reste son œuvre la plus jouée, mais on peut pas en dire autant du Timbre d'argent qui n'a même donc jamais été enregistré dans son intégralité. On trouve des airs de ci de là dans quelques disques.
Un air. Le bonheur est sous les airs.
C'est toujours le même.
Moi j'ai cherché dans la bibliothèque de Radio France.
Ouais. Vous avez fait la recherche.
Oui, bien sûr, j'ai trouvé trois versions de Le Bonheur et Choses légères, mais c'est tout.
D'accord, bon, c'est pour dire. Donc là, il y a une captation, il y aura un DVD, etc. etc. L'histoire, c'est celle d'un peintre, Conrad, qu'on découvre au début de la représentation, en train de se plaindre de tout et de tous, alors qu'il est quand même très bien entouré, ce Conrad. Vénal, on va le comprendre assez vite, il se voit proposer un étrange cadeau par un être mystérieux, un timbre d'argent, vous savez, ces petites cloches qu'on trouvait sur les comptoirs d'hôtel pour appeler le réceptionniste, c'est pour donner un peu une image, ou alors un vieux film si vous voulez. Donc s'il fait sonner ce timbre d'argent, il s'enrichira. Il y aura juste une petite conséquence, un de ses proches mourra. On va écouter un extrait de cette production tout de suite du Timbre d'argent. Et je ne demande à ce que j'ai gagné que sourire les moins encore. Et je ne demande à ce que j'ai gagné que sourire les moins encore. Les moins encore. Les moins encore. C'est un applaudissant, mes chansons, comme elle Voilà pour ce court extrait du Timbre d'argent, présenté actuellement, et je ne l'ai pas encore dit, c'est très mal, à l'Opéra Comique, salle Favart, comme on disait autrefois. C'est une des tonalités de cet opéra qu'on vient d'entendre, parce que il y en a de nombreuses, c'est ça qui est assez passionnant. Moi, je ne connaissais pas cette œuvre, forcément. J'avoue ma grande inculture. Non, mais moi, je ne lis pas les partitions comme vous pouvez le faire, mesdames. Donc, je n'avais aucune
idée. On ne les a pas vues, les partitions.
Non, mais vous auriez pu les étudier avant. Comment ça, je ne comprends pas. Vous n'étudiez pas avant.
Oui, c'est vrai, on aurait pu demander.
Ah bon. Mais moi, on m'aurait donné la partition, ça n'aurait rien changé. Parce que je n'aurais pas entendu la musique dans ma tête. Bref, j'étais très agréablement surpris, parce que c'est toujours intéressant de faire des découvertes. Et que ce Saint-Saëns a quand même une palette extrêmement large et qui nous en fait vraiment profiter dans ce Timbre d'argent, Anna Segalevitch.
Oui, oui. Vous disiez que la carrière de Saint-Saëns a été compliquée, mais la genèse de l'œuvre a été carrément totalement chaotique. Je peux raconter un tout petit peu?
Si vous voulez, comme ça, il y aura moins de temps pour autre chose. C'est comme vous voulez.
Je vais très vite. En gros, ça a commencé en 64 parce que Saint-Saëns s'était présenté une première fois au Prix de Rome. On lui avait pas donné et il s'est présenté plus tard, donc, au Prix de Rome. Mais là, il était trop vieux et sa carrière était déjà lancée, etc. Mais Aubert, qui était dans le jury, a quand même dit, mais il a quand même du talent, ce Saint-Saëns. Il faut l'aider pour lancer sa carrière lyrique. Donc, il est allé voir Léon Carvalho qui dirigeait le théâtre lyrique et il lui a dit, écoutez, vous n'avez pas un petit livret sous le coude et vous le faites monter par Saint-Saëns. Bon, oui, d'accord. Saint-Saëns a écrit la partition donc sur ce livret trois compositeurs l'avaient refusé. Hein. C'est important quand même pour comprendre, je trouve, le livret de cette œuvre. Et là, ça a été de mal en pis parce qu'il a mis 2 ans à lire la partition. Ensuite, il était plus directeur. Ensuite, il y a eu la fin du Second Empire. Enfin bon, ça a été un désastre.
La guerre de 70.
Voilà, donc ça a été créé en 77, 13 ans plus tard. Moi, je trouve que ça sent un peu quand même. Ça a été beaucoup remanié, l'œuvre. Et on sent que ça va un peu dans tous les sens. Mmh. Voilà. Après, musicalement, il y a en effet, je suis d'accord avec vous, de très belles choses. Cette ouverture, très étonnante, extrêmement narrative,
10 minutes
dramatique.
Quand même, hein.
Ah, ça va dans tous les sens.
C'est plus une ouverture, d'ailleurs. Ah ouais, c'est une symphonie.
C'est un prologue, symphonie. Très Berlioz, extrêmement théâtral. Voilà, il y a plein de choses qui sont très belle. Il y a ensuite, au début, un thème funèbre qui est un peu schubertien, avec des cordes comme ça, très beau. Il y a des duos Rosa et Hélène, qui sont les deux sœurs de l'ouvrage, qui sont beaux. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la danse de l'abeille, qui commence comme ça, comme un petit bourdonnement d'abeille, hein, et puis qui se transforme presque en rhapsodie hongroise, enfin qui bascule comme ça. Il y a de jolies mélodies, enfin, il y a plein de choses. Musicalement,
il y a plein de choses,
Mais,
c'est bon pour. On n'a pas envie de retourner voir. Enfin, franchement, moi, je l'ai entendu une fois. Je suis pas sûre d'avoir envie de regarder le DVD parce que musicalement, justement, je trouve que on n'a pas. J'ai pas eu mon compte, si on peut dire. Il y a tellement de disparités, il y a tellement de rues et gambades sur le plan stylistique et sans transition d'ailleurs, hein, les choses sont juxtaposées, qu'à un moment, bon, est-ce qu'on est dans une opérette, est-ce qu'on est dans un poème symphonique, est-ce qu'on est ce manque d'unité fait qu'on n'arrive pas à accrocher à l'ouvrage. Et d'autant plus que comme vous disiez Anna, le livret lui-même passe d'un lieu à l'autre sans qu'il y ait de progression. Alors vous allez me dire dans les contes d'Hoffmann aussi, il y a des juxtapositions de scènes, mais c'est tout à fait différent.
Enfin, il y a une unité musicale qui est tout à fait autre. Alors que là, à chaque séquence, on se dit, alors est-ce qu'on va avoir un peu de Wagner?
Moi j'avoue que premier acte, j'étais
dans les contes d'Hoffmann, on va quand même au bout des scènes. Les personnages existent.
Là,
les personnages n'existent pas. Conrad, il est le même au début à la fin. Ça lui a servi à rien de vivre ce qu'il a vécu, parce qu'en fait tout ça, on sait que tout ça à la fin aura été un cauchemar, mais il y a quand même une sorte de parcours initiatique, mais bon, visiblement il est tellement stupide qu'il en engrange rien. Tous les personnages en fait n'évoluent pas, ils restent exactement à l'endroit où ils sont, et il y a quand même 3 heures de musique, hein, donc il faut quand même arriver au bout, franchement.
Quand même, pour dire que la deuxième partie, alors est-ce que c'est lié à la mise en scène? Moi, la deuxième partie, donc troisième, quatrième acte dans ce spectacle, m'a paru quand même beaucoup plus tenue, efficace, plus cohérente dans sa présentation. Ça pas,
non,
vous n'avez pas
moi,
ressenti
non,
cela, vous, Mario Draud?
Non, moi, je trouve que
c'est parce que c'est plus court, Anna Segalé.
Oui, je pense que non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Et puis
c'est vrai.
Et puis en plus, bon, il y a quand même, il faut dire que tout le spectacle est quand même tenu. Enfin, c'est mon avis, par la danseuse, par Raphaël Delaunay. On enlève Raphaël Delaunay et là, c'est carrément irregardable pour moi.
Bon, ça, on va en parler. Irregardable.
Parce qu'il y a le personnage d'une ballerine, Anna l'a pas dit, il y a le personnage d'une ballerine maléfique qui est la sorte de poupée Olympia, si on peut dire, de l'affreux
Conrad. Supposé.
Non,
Spiridion.
L'affreux de le diable, parce qu'il y a un pacte faustien, etc. Cet âme d'argent, voilà.
Oui, l'histoire n'est pas possible.
Non, l'histoire n'est juste pas.
On est d'accord.
Du mal à en parler.
Avant de venir, pardon, sur la mise en scène, même si vous avez peu goûté la musique, est-ce que vous avez goûté le travail de François-Xavier Roth dans la fosse?
Moi, oui. Je trouve que d'ailleurs, d'ailleurs, son orchestre a fait d'énormes progrès, parce que c'est vrai qu'on reprochait un petit peu un côté un peu rude parfois cette direction, et là, vraiment, franchement, c'est très très coloré, c'est très très dynamique. Là, vraiment, justement, on peut pas dire que l'œuvre n'est pas servie. Et puis il y a du théâtre effectivement dans cette façon de diriger. Donc là, vraiment, François-Xavier Roth et ses musiciens, les siècles là, ce musicien sur instrument d'époque, on fait vraiment un travail magnifique.
Nous sommes d'accord, Anna Segalevich.
Ah oui, moi aussi, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de théâtre. On sent aussi un plaisir à se déployer musicalement. C'est très bien spatialisé, la façon dont les cuivres sont à un certain endroit, dont ils entrent. Le chœur aussi qui entre un moment par la corbeille. On peut dire que c'est un peu des systèmes, mais c'est vraiment bien fait et ça fonctionne. Ils insufflent une énergie en permanence au plateau. Là, je trouve que vraiment, on sent un orchestre, un chef qui souhaite dynamiser le plateau et faire entendre l'œuvre. Vraiment, il y a beaucoup de plaisir de ça. Il y a une richesse de timbre. C'est un très beau travail.
L'œuvre est très bien servie musicalement. Oui. Alors, vocalement, c'est quand même un peu plus compliqué, notamment avec Conrad Edgaras Monvidas, qui est un peu pénible par moment.
Il a une couleur de voix par moment. C'est juste, on se demande s'il est... Il n'y a pas un truc qui lui est rentré dans la gorge et qui est en train de faire. Non, c'est très curieux d'ailleurs cette manière d'émettre. Il a des sauts d'émission, je ne sais pas comment dire, comme s'il changeait de registre vocal. Et parfois, ça prend des teintes qui sont assez criardes, assez acides, c'est pas beau.
Et avec un vibrato très très lourd aussi par moment, un problème de français et un problème de ligne de chant.
Oui.
Parce que c'est. Le phrasé est incompréhensible. Il coupe la ligne de façon. Assez surprenante, quoi. Avec, par moments, des choses bien.
C'est titre très inégal, en fait.
Oui, c'est pas un chanteur épouvantable.
Il faut quand même dire que c'est aussi un rôle assez écrasant. Il est du début à la fin en scène.
C'est d'autant plus embêtant, justement. Oui, c'est vrai que, comme Bénédicte aussi, un d'autres quand même grands rôles masculins est tenu par un chanteur non francophone. Déjà que le livret est quand même effectivement pas simple. C'est vrai que le français ici est quand même assez mal servi. Faut pas entendre quelque chose de réactionnaire dans mon propos, mais vraiment on parle de ce qu'on ressent nous comme auditeurs, spectateurs, et ça rajoute quand même à la
une difficulté pour rentrer dans l'œuvre.
Pour rentrer dans l'œuvre. Nous sommes
d'accord. Et de crédibilité même. Il y a un problème d'incarnation du coup.
Donc, quel est-il faire dans cette galère, Guillaume Vincent ?
Il faut dire quand même que les deux sœurs qui ont des rôles moins importants, très très peu importants même, mais qui sont très très bien.
Les femmes sont bien meilleures que les hommes.
Hélène, qui est interprétée par Hélène Guillemette
et Jodie DeVos
pour Rosa, vraiment toutes les deux, elles ont un duo d'ailleurs qui est très joli, au Vierge Mère je crois que ça s'appelle comme ça, qui est très bien, et puis elles ont beaucoup de personnalité, elles sont incarnées toutes les deux, elles sont touchantes. Il y a de l'émotion.
Et puis le Spiridion de Tassis Christoyannis qui dans son rôle de...
Lui, en tout cas, il assure.
De personnage très théâtral, assume. Et en plus, il est transformiste, on le voit une fois. Enfin, c'est assez amusant. Il y a un jeu sur les costumes qui, pour le coup, est assez amusant ici.
Oui, il tient bien la scène, lui, pour le coup. Guillaume Vincent, donc, mise en scène pas facile. Est-ce que c'était vraiment un cadeau? Parce que vous l'avez dit, Marie Audron, on a vraiment à faire une succession de tableaux. Il n'y a pas de fluidité narrative, mais au contraire, une succession de tableaux, d'images à faire. Anna Segalevich, vous pensez?
Non, mais clairement, c'est pas là qu'on peut apprécier le talent de metteur en scène de Guillaume Vincent. Enfin, c'est évident. Moi, je l'adore au théâtre. Il a fait encore son dernier spectacle, Songes et Métamorphoses, que je trouve magnifique. Les précédents, La Nuit tombe. Enfin, il y en a beaucoup à citer. C'est un metteur en scène qui est extrêmement sensible, qui a un univers extrêmement personnel. Moi, que je trouve vraiment talentueux.
Ah, et moi donc. Un de nos meilleurs metteurs en scène.
Voilà. Là, ça ne se voit pas. Il y a de bonnes ambiances, c'est pas du tout mal fait. Hein.
C'est professionnel.
Voilà,
c'est très professionnel.
C'est professionnel. Il y a du travail, c'est soigné. Il y a des choses qui sont réussies, mais là c'est pareil, il y a pas vraiment de propos. Quoi. C'est-à-dire qu'il met en place un tableau après l'autre, avec quelques idées, moi qui m'ont plutôt amusée. J'ai aimé le tableau du début, la Circé qui apparaît
derrière ce tableau.
Voilà, comme ça, lenticulaire, une sorte de qu'on voit comme ça. voilà, ça j'ai trouvé.
Il y a des côtés, numéro de magie.
Oui.
Bon après, c'est, il y a des choses très qu'on a déjà tellement vues que c'est vrai que c'est. Je reconnais que c'est vraiment pas facile de se tirer d'un mauvais pas lyrique à ce point-là.
Moi, je pense qu'il en tire le meilleur parti, mais.
Oui, c'est ça. Avec la scène de bal, avec les ballons à l'hélium, il y a une ambiance acidulée. D'ailleurs, un mélange de 40 et d'aujourd'hui. Je trouve qu'il mélange assez bien les époques. La forêt aussi, quand ils sont dans la forêt, il y a une forêt avec, donc il utilise une sorte de vidéo comme toile de fond, comme ça, qui bouge de façon presque imperceptible, mais c'est assez délicat, avec des projecteurs qui baignent la scène de lumière qui viennent des hauteurs à jardin. Ça, c'est assez joli. Voilà, avec toujours ces rideaux, il y a toujours des rideaux
avec des paillettes.
Ça, il aime les rideaux à paillettes.
Il
y en a beaucoup.
Je suis moins touchée que ce que vous dites, Anna, par toutes ces choses-là.
Mais c'est parce qu'on a eu la chance de voir beaucoup de spectacles mis en scène par Guillaume Vincent et qu'on sait les immenses qualités de ce metteur en scène.
Vous avez pu imaginer ce qu'il aurait pu faire.
Non, mais peut-être qu'on a une affection. Effectivement, c'est vrai que moi j'ai une affection.
Parce que là, si on regarde les choses vraiment de manière...
Oui,
ça se voit pas. Je pense qu'il ne faut vraiment pas découvrir son travail de metteur en scène avec ce spectacle.
Oui, c'est un peu difficile de ce côté-là. Bon, nous sommes mitigés, on l'entend bien. Le timbre d'argent, Camille Saint-Saëns, direction François-Xavier Roth, mise en scène Guillaume Vincent. C'est jusqu'au 19 juin à l'Opéra Comique. Diffusion sur France Musique le 2 juillet.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Le troisième sujet de cette dispute musique, c'est un disque à la russe du très jeune pianiste français Alexandre Kantorov, 20 ans cette année. Alors, on a essayé de retracer un peu le parcours de ce très jeune homme, pour savoir un peu d'où il vient. Je dis qu'il a 20 ans, c'est vrai qu'il est né à Clermont-Ferrand, qu'il a suivi différentes écoles, que ses parents sont tous deux musiciens, tous deux violonistes, et son père également chef d'orchestre. Alors, c'est quand même quelqu'un qui a baigné dans la musique. Pour autant, il n'a pas choisi le même instrument que ses parents, puisque lui a choisi le piano. Peut-être qu'on va en parler davantage après avoir quand même écouté un extrait de ce nouvel album, parce qu'il avait déjà enregistré précédemment. La valeur n'attend pas le nombre des années, on en parle dans un instant. On écoute tout d'abord le passé lointain de Tchaïkovski. Thank you. jusqu'au bout de la résonance. Dans cet extrait de Alarus, nouvel enregistrement de Alexandre Kantorov, il faut quand même dire quelques mots sur le programme, puisque là on a entendu Tchaïkovski. Au programme, Mario Drou.
Je trouve intelligent ce programme et assez original. Il fait entendre des choses qu'on connaît bien. Mais enfin, cela dit, l'oiseau de feu dans la transcription de Guido Agosti, personnellement, je ne la connaissais pas. Alors, c'est honte à moi, certainement.
Mais honte à vous.
Je ne la connaissais pas.
Scherzo Alarus aussi, qui est très prisé des pianistes, mais qui n'est pas si souvent enregistré. La première sonate de Rachmaninoff. Franchement, je trouve qu'il y a un bel univers, des contrastes, des choses qui se répondent. C'est très intelligemment fait. Et pour ma part, vraiment, ce disque, c'est un enchantement du début à la fin. J'ai pas peur de le dire. Je trouve que ce jeune homme possède énormément de qualités, énormément. Déjà une grande maturité. Quelqu'un qui chante, qui sait être poète, qui respire, qui fait de la virtuosité, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment toujours au service de la musique. Alors ça paraît banal de le dire parce qu'on peut le dire de plein de gens, mais je trouve qu'il a un piano qui est très plein, qui est et en même temps une manière de faire parfois sonner des choses très très orchestrales. Par exemple, qu'est-ce que j'avais noté que
le Stravinsky,
voilà, on a l'impression d'entendre vraiment le trait de piccolo, la timbale qui tombe, c'est très très étonnant. On entend vraiment tout ça. Et puis là, on avait presque un côté un peu schumannien. Et le Stravinsky, le premier Rachman, qui est très brahmsien aussi. Enfin, je trouve que franchement, c'est quelqu'un qui a c'est comme s'il avait vraiment dégéré tous les univers stylistiques et qu'il restitue ça avec une forme de naturel. Voilà. Il est complètement présent dans cette musique. Et à la fois, ça renvoie à on peut trouver des tas de correspondances. Et en même temps, c'est unique. C'est lui qui le fait. Donc franchement, c'est très très beau talent à découvrir.
Alexandre Kantorov, oui. Anna Segalevitch.
Moi, j'ai ressenti tout comme Mario.
Bon, très bien.
C'est-à-dire que
générique fin. Allez,
non, mais vraiment, c'est les mots que j'ai notés précisément parce qu'en effet, je dirais aussi qu'il y a à la fois de la juvénilité et de la sagesse. Oui. C'est un mélange des deux. Beaucoup de noblesse, un jeu plein. Ça, c'est vraiment. On sent il y a du sentiment, c'est nourri. Tout est plein dans ce qu'il fait. Tout est chaleur, tout est tendresse et en même temps.
c'est joli, c'est une phrase à la Édouard Baird. C'est talent, tout est fraîcheur.
Mais
je trouve ça beau, moi, ces envolées poétiques.
Oh, et en même temps, quand il faut y aller.
C'est un hommage.
Quand il faut y aller,
il a des moyens techniques qui sont,
il a beaucoup de doigts.
Impressionnants. Pas du tout laborieux. Hein, on sent qu'il en a
vraiment,
encore
sous
le pied tout le temps. Voilà, c'est peut-être je dirais, pour émettre une
mini-réserve,
mais vraiment, vraiment, histoire de
un peu trop de chipoter. Un peu trop de pédale, peut-être.
Un tout petit peu trop de rondeur, voilà.
Oui. Bah voilà que, par exemple, un peu trop de pédale.
Ouais. Le final de la sonate n'est pas diabolique. Il n'y a pas de course effrénée. Voilà, on reste quand même dans quelque chose d'assez rond. Pareil pour le final du Balakirev, qui est très, très beau, mais qui n'est pas échevelé, comme on peut entendre parfois. Voilà, mais c'est vraiment, c'est idiot ce que je dis. Enfin, franchement,
est-ce qu'il va chercher tout ça
Et puis c'est personnel en plus. On sent que c'est lui qui a à la fois énormément de légèreté et en même temps qui a une forme de mélancolie. Il est habité quoi, ce garçon. C'est large, c'est beau quoi, vraiment.
C'est très beau.
Alors, il va donner plusieurs concerts, là, dont je vais donner quelques dates. Vous avez eu l'occasion déjà de le voir, Marie Audreau.
Pas en concert, mais là, le 19, je vais essayer d'aller le voir à la Fondation
Louis
Vuitton.
Oui. Programme Brahms Bartok Liszt. Vous ne l'avez pas vu encore, Anna Sievich?
Mais non, je ne le connais pas.
Parce qu'il a joué, je crois, l'année dernière déjà à la Fondation Louis Vuitton. Et visiblement, ça fait déjà quelques années qu'il avait été un concert tout à fait remarqué. Donc, d'autres dates que je donne. Alors, le 22 juillet à Margaux. Le 31 juillet à la Roque d'Anthéron, le 6 août à Biarritz et le 23 septembre à Toulouse. Évidemment, piano jacobin à ce moment-là. C'est donc ce même programme, hein, visiblement, pour ces concerts estivaux d'Alexandre Kantorov, Brahms, Bartok, Liszt. On en prendra bien.
Il y a une phrase du morceau qu'on vient entendre que Tchaïkovski indique « Cantabile con noblesse et intimo sentimento ». Et je trouve que c'est ce qui résume vraiment le jeu d'Alexandre Kantorov. Voilà, chanter avec noblesse et un sentiment intime.
En plus, vous êtes polyglotte, c'est magnifique. vous auriez pu le dire en russe.
Конечно.
Voilà, à la russe d'Alexandre Kantorov. On n'a pas cité la maison Disque, c'est BIS. Donc, on n'en parle pas souvent de bis. Donc, citons-les. Bah, ils ont bien fait de signer Alexandre Kantorov.
Hein. Oui, bah, ils vont certainement se le faire piquer.
C'est pour ça qu'on redit leur nom. Bis, oui, voilà. bis, parce que c'est eux qui, pour l'instant, en tout cas, nous font ces cadeaux-là. Concluons cette dispute avec le jeu. D'abord, un rappel du jeu d'hier au soir pour en connaître la réponse et celle qui porte ce message chaque soir, c'est Justine Dibling. Alors, question-réponse pour hier.
Donc, le documentaire Nothing Wood se passe en Afghanistan. Quelles sont les deux langues officielles de ce pays? Et la réponse était le dari et le pachto.
Vous pouvez dire la question dans ces deux langues peut-être? Non,
bon, sûrement. Bon.
Non, ce soir, on reste dans le cinéma et on fait gagner des places pour aller voir Wulu, le film de Daouda Koulibaly qui est sorti hier sur les écrans français. La question, Justine?
Daouda Koulibaly a été un des favoris du 25e FESPACO, le festival le plus connu du cinéma africain. Où se tient ce festival et quel est le nom de sa plus haute récompense?
Très bien, double question, hein, le lieu et la récompense. Votre réponse avec vos réponses du coup, double, ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur le site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel on peut réécouter cette émission. On peut aussi s'abonner au podcast, comme ça on l'aura toujours sur soi. Site sur lequel vous pouvez bien sûr aussi nous écrire. Rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la littérature. Nous serons en compagnie de Laurent Nunes et Florent Georgesco. À notre affiche, tiens, 100% féminine, j'avais pas remarqué, Vernon Subutex de Virginie Despentes, Quand sort la recluse de Fred Vargas et La France en automobile d'Edith Wharton. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.